Moi, je prends le principal au casseur oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, j'ai fait une compagnie au Casanga. Je pense qu'en combinant les deux, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à Parole aux auditeurs. L'environnement est au centre de l'émission de ce jour. Nous ferons un zoom sur la protection des forêts. Il s'est tenu à Kinshasa le forum de haut niveau sur la forêt et le changement climatique. Pendant deux jours, les experts congolais et internationaux spécialisés dans le développement durable et de l'environnement réfléchis sur les stratégies à mettre en place pour mieux gérer les ressources naturelles en RDC et lutter contre les méfaits du changement climatique. La RDC compte 145 millions d'hectares de forêts tropicales, une potentialité indéniable pour l'atténuation du changement climatique. Par changement climatique, on entend les modifications durables des paramètres statiques du climat global de la Terre ou des divers climats régionaux. Et ce changement climatique, on a constaté des phénomènes de sécheresse, de salinisation des eaux, des certifications ou encore des inondations. L'émission des certains gaz incluant ce changement climatique et la forêt joue un rôle important dans la stabilisation de l'écosystème. La question qui va lancer notre émission, comment comptez-vous, vous auditeurs, participer dans la protection de la forêt en RDC? Nous avons invité pour vous Madame Sadia Desmarquez, elle est conseillère principale du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sur des questions du changement climatique. Tiki Koutou, Nicole Ngaka et Betty Songeli réalisent cette émission. Jean-Marie Mokondo est à la mise en onde et Marie-Chantal Lumba à la présentation.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Bonjour Madame Desmarquez. Bonjour Madame. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans ce studio de Radio Capi. Pendant une heure, nous allons échanger avec les auditeurs sur ces questions qui sont d'actualité concernant l'environnement, comment protéger notre environnement, comment participer pour que nous puissions protéger nos forêts, parce que c'est la question qui va lancer cette émission, et pourquoi il est important de protéger ces forêts.
En définition brève, pourquoi il faut protéger ces forêts, c'est avant tout pour les Congolais. C'est dans un esprit de développement durable, vu que la population congolaise est très tributaire de sa ressource forestière. Donc en la gérant durablement, forcément, elle va pouvoir en profiter de manière durable, dans un premier temps. Et puis cette forêt est aussi importante au niveau des équilibres mondiaux concernant les changements climatiques. Vous savez, l'atmosphère, on la partage tous, la planète entière partage la même atmosphère. Et ce qui se passe dans l'atmosphère au nord peut avoir des impacts au sud et vice-versa. Et la forêt congolaise, c'est le deuxième massif forestier tropical au monde, permet la séquestration des gaz à effet de serre, donc le CO2, qui a été émis pendant la révolution industrielle. Et donc participe beaucoup à la séquestration de carbone, donc à la stabilisation du climat. Donc la protection de cette forêt congolaise est importante pour les Congolais, est importante pour la communauté internationale.
Et il y a eu ce forum de haut niveau où il était question bien sûr de voir dans quelle mesure protéger les forêts, mais aussi mettre des stratégies en place pour gérer toutes ces ressources naturelles et lutter contre ces méfaits du changement climatique. Est-ce qu'il est ressorti quand même des recommandations de ce grand forum?
Oui. Le principal résultat qui en ressort, c'est la mise à plat de tout ce qui se fait, parce qu'il y a beaucoup de discussions à travers la planète sur la protection des forêts pour le bienfait du climat. Mais c'était resté peut-être un peu flou au niveau de la communauté congolaise. et aussi au niveau de la communauté internationale par rapport aux attentes de la communauté congolaise de ce processus RED, donc de stratégie de réduction de la déforestation. Donc les échanges ont permis déjà d'asseoir des politiques congolaises qui entendent beaucoup parler des négociations sur le climat, de la forêt, et qui étaient curieux de savoir ce que cette stratégie de protection de la forêt pourrait apporter en termes de développement de leur secteur. Donc il y a eu le ministère de l'énergie, le ministère de l'agriculture, les ministres, et les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il y a eu des échanges entre eux et les partenaires. Ils ont eu des présentations qui les ont édifiés par rapport à ce qui se fait au niveau international, des contraintes, des avantages de protéger la forêt et des possibilités de financement en matière de mécanismes de financement qui vont être mis en place pour le climat, ce que ça pourrait apporter pour le Congo en matière de développement de l'énergie, de l'agriculture et d'autres secteurs autres que la forêt. Ça ne vise pas uniquement le développement du secteur forestier, ça va au-delà.
Donc il est important de protéger les forêts, mais voir dans quelle mesure avoir une économie qu'on appelle une économie verte. Et c'était ça l'essentiel en fait des échanges qu'il y a eu au cours de ce grand forum.
Voilà, le forum a permis de montrer que la communauté internationale n'attend pas de la RDC, de la part de la RDC, mettre sa forêt sous cloche, ne pas y toucher, mais de voir quels sont échanger les
comment la gérer
de manière à pouvoir bénéficier de ce qui est en train d'être discuté à l'international au niveau financement. Parce qu'il y a des conditionnalités, il y a des préalables, il y a des institutions de contrôle, de suivi, qui doit certifier à la communauté internationale que la RDC protège réellement sa forêt.
Qu'elle puisse aider en fait l'ensemble du monde en fait.
La RDC va aider l'ensemble du monde,
mais elle-même aussi.
Et elle-même,
c'est ça, c'est comme vous l'avez dit, donc c'est pas seulement pour la RDC, mais c'est pour
la communauté internationale.
Vous allez écouter Jean-Claude qui se trouve à Mambasa, Marcel à Mouba, Jeff à Mbandaka. Ils vont nous dire comment eux, ils comptent participer à la protection de la forêt et voir aussi dans quelle mesure quelles sont les alternatives, parce qu'on peut pas d'un coup demander aux gens de protéger leur forêt sans leur expliquer ce qu'ils comptent faire pour pouvoir trouver des ressources ailleurs, et nous allons y réfléchir. Et si vous voulez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous écrire à l'adresse internet pa@radiotapi.net ou carrément vous inscrire en composant le 081 ou 190 63 15.
Radio Capi, la radio de la paix en route vers les élections. Retrouvez tous les jours, questions à la CENI et les élections, c'est facile à comprendre. Une occasion pour vous d'adresser vos questions à la Commission électorale nationale indépendante par SMS au 081 006 57 10 au 081 006 57 10 ou par mail à elections@radiocapi.net.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour madame.
Nous n'allons pas revenir sur l'importance de la forêt, mais nous vous posons la question pour savoir qu'est-ce que vous proposez pour la protection de cette richesse.
Merci madame, c'est une très belle question que j'ai vraiment des propositions à faire à mon gouvernement, si mon gouvernement est vraiment responsable. Vous savez, nous à Mambasa, nous sommes en pleine forêt. Nous sommes vraiment au milieu, nous sommes à l'Ituri, nous sommes dans la forêt, mais qu'est-ce que nous remarquons? Vous voyez, la forêt à Mambasa est sérieusement, la déforestation est totale. Donc, il y a l'exploitation illégale des bois, il y a les problèmes de chercher les braises, les bacalas. Que devait faire le gouvernement? Le gouvernement devait faire que dans l'Ituri, d'abord, qu'il y ait du courant électrique. Que même les paysans puissent cuire. Ça nourrit donc du courant électrique. C'est affaire que les gens d'abord n'allaient pas chercher les macaras, donc les impérignations, les braises, cela protégerait les forêts. Pour l'exploitation, il faut qu'il y ait des règlements. Que font les agents de l'environnement, même si nous devons faire des réunions et des réunions, que font les agents du Fonds forestier national?
on essaie que, on est en train d'exploiter le bois, on cherche les planches dans n'importe quel bois, on ne voit pas l'âge, on ne voit pas c'est l'arbre qu'il faut couper, il n'y a pas vraiment de sélection, il n'y a plus de renouvellement, on ne sait pas planter. Bon, le problème c'est ça, le problème c'est que le gouvernement ait une certaine volonté politique, qu'ils aient vraiment une bonne financement, qu'il y ait du courant électrique par exemple dans la
ville
de Bouya, quand on commence
à faire
dans la ville de Bouya. Sinon, ça sera comme la ville, de, la territoire de Denis.
S'il vous plaît, Jean-Claude. S'il vous plaît, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, quand même, il existe le code forestier qui existe. Vous proposez, en fait, l'alternative qu'on puisse pas utiliser, que le bois de chauffage. Soyez un peu plus clair dans vos propositions.
Oui, madame, comme je dis, il y a beaucoup à faire. Nous devons planter, par exemple, les eucalyptus, nous devons planter les acacias pour qu'on puisse utiliser ça. C'est ce que devait faire le Fonds forestier national. Mais on prend beaucoup de taxes et tous ces taxes-là, il faut voir comment on les prend. Est-ce que ça entre vraiment dans la tête de l'État? Et moi, je disais ceci, si on ne fait pas attention, nous irons en territoire de Denis. La forêt a complètement disparu. Je ne rappelle pas un groupement dans le territoire de Rousseau, Binda, qui avait une forêt qui a complètement disparu. En territoire du Rousseau, la forêt est vraiment menacée. Voilà ce que j'avais à proposer, madame.
Merci Jean-Claude. Marcel, vous êtes à Boma, bonjour.
C'est à Momba, c'est Marcel Kata à Momba. Bonjour madame, bonjour l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Oui Marcel, et qu'est-ce que vous vous proposez pour pouvoir participer à la protection de nos forêts?
La première des choses, je crois que le gouvernement doit d'abord mettre en place des stratégies pour éliminer la pauvreté. Parce que la déforestation, la base, c'est d'abord la pauvreté. Lorsqu'on est pauvre, on n'a pas du courant, on est obligé d'aller chercher les makalas, les bois, par exemple ici à Moba. Mais c'est grave, lorsqu'on n'a pas de bois, en tout cas à la maison, on ne peut pas bien vivre. En plus de ça, il faut aussi inculquer à la population congolaise, à travers l'éducation et la sensibilisation, des notions importantes relatives au bien fondé de conserver la forêt. Je n'ai pas encore terminé, il y a encore deux questions que j'aimerais poser à l'invité du jour. Au Congo, il y a combien de structures nationales et internationales qui œuvrent pour la protection des forêts? Et comment ces dernières travaillent-elles? Et que dit la loi en rapport avec l'exploitation forestière? Voilà ma contribution, madame.
Donc vous voulez savoir combien de structures travaillent dans l'environnement, c'est un peu ça votre préoccupation.
Oui.
Et la protection de la forêt, mais aussi vous voulez savoir quelles sont les réglementations.
Bien sûr.
Et merci beaucoup Marcel, et vous avez souligné qu'il faudrait à tout prix participer dans l'élimination de la pauvreté, mettre en place des stratégies de lutte contre la pauvreté, et aussi un accent sur la sensibilisation des populations pour qu'ils puissent se rendre compte, prendre conscience de l'importance de la protection des forêts. Merci beaucoup Marcel. Chief, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, c'est Chief de Mangaré.
Nous vous écoutons, quelles sont vos propositions?
J'aimerais bien, avant de commencer à des propositions, poser une question un peu importante et à l'invité. Parce que, madame, je vous ai suivi tantôt là, on parle toujours de la conservation, on parle toujours de la protection. Alors, je voudrais un peu savoir, quelles sont les garanties que ce forum a prévues en ce qui concerne la population congolaise en général et les provinces en particulier qui détient une très grande capacité forestière. C'est ça. Parce que je ne peux pas croire, madame, mais permettez-moi, dans la province comme l'Équateur, une très grande province comme ça, il y a caractère forestier, vous allez trouver des écoles qui n'ont pas de bancs. Vous allez trouver des écoles qui n'ont pas de portes, des hôpitaux qui n'ont pas de lumière. En tout cas, ça se fait une chose, ils sont contraires à la fois. Comment cette population doit continuer à conserver la forêt, à protéger la forêt, aussi longtemps que cette population vit d'abord dans la misère, on peut perpétrer. Donc c'est ça d'abord la question que je pose à l'invité général, c'est qu'elle me donne des précisions là-dessus. Que les problèmes ne se réduisent pas à des exploitants locaux qu'on vient de dire, mais que c'est donc généralement faux par rapport à l'exploitation des bois sous forme de charbon et consorts. Parce que la problématique se situe d'abord au niveau national avec les sociétés qui exploitent les bois. Moi, je pense qu'il y a des lois qui juristes et ces sociétés ne sont pas vraiment bien obtempérés, ils ne sont pas bien suivis, parce que nous savons des sociétés, il n'est pas faudrait assez bien plus les citer en cours d'une émission comme ça, qui soit que le bois, par exemple, ici chez nous, dans la province de l'Équateur, d'une manière illégale, d'une manière abusive, se voit descendre à Kinshasa pour faire quoi que ce soit, et eux-mêmes le connaissent. Je pense que le problème aurait peut-être voulu être arrêté à ce niveau avant que ça soit dans le niveau provincial et dans le niveau local, comme les prédécesseurs l'ont soulevé là.
Merci beaucoup, Chief. Donc, vous souhaitez avoir plus de précisions, avoir de l'information sur les alternatives contre le gouvernement à la population pour permettre de protéger les forêts. Daniel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Nous vous écoutons, Daniel.
Oui, merci beaucoup. Donc, je suis à l'université de Kinshasa et coordinateur d'une association Congo à venir. Tout d'abord, j'ai voulu dire que, en tout cas, nous sommes peut-être désolés de voir que dans des lieux où on décide sur l'environnement, notre pays n'est pas représenté, vous voyez. Tandis que nous sommes le deuxième poumon de ça. Bon, et comme on dit que nous devons protéger. Donc,
Daniel, que vous pouvez répondre. Vous l'avez dit, je n'ai pas pu dire aussi. Vous étiez en train de dire que la RDC n'est pas représentée à quel niveau? Daniel?
Oui,
vous étiez en train de dire que la RDC n'est pas représentée à quel niveau?
En fait, quand on parle de l'environnement, quand on parle de la protection des forêts, tout ça, dans les forums internationaux, notre pays n'est pas souvent représenté, c'est ce que je voulais dire.
Bon. Oui. C'est, par exemple, parce que dernièrement, et souvent, la plupart des forums qu'il y a eu, il y a eu le ministre lui-même de l'Environnement qui a participé à toutes ces rencontres, à moins que vous ayez d'autres informations que nous n'avons pas.
Bon, ça va. Bon, s'il y a de telles informations, on peut toutefois voir que notre pays n'est pas peut-être valablement représenté. C'est ce que je veux dire. Donc, prendre la parole en première place comme étant le deuxième poumon de l'environnement, c'est pas ça vraiment mon problème. Et tant que la situation pour l'encadrement de la génération, nous avons effectué certaines recherches, nous avons vu que le seul domaine qu'il fallait sensibiliser la population, les jeunes en particulier, c'était l'agriculture si on veut protéger l'environnement. Nous sommes arrivés par exemple en Malawi, comme nous avons vu certains maraîchers et voir les activités qu'ils font. Nous avons vu que c'est le domaine par excellence, madame. Il faut lutter contre le décès de réchauffement climatique, tout ça, que vous connaissez bien. Voyez là où je vais arriver.
L'une des pistes de solution serait de donner plus d'importance à l'agriculture.
Oui, à l'agriculture. Et aussi sensibiliser les jeunes sur la valeur que nous avons sur cet environnement. Comment la protéger? Vous voyez, moi j'ai pris seulement cet angle parce que c'est ce point que nous avons travaillé. Bon, les données ne sont pas encore présentées. Mais en tout cas, nous voyons que les jeunes pourront bien participer à la protection de l'environnement en exerçant les activités agricoles.
Merci Daniel. Théodore, vous êtes un Boujimaï, bonjour.
Bonjour Madame Chantal.
Oui, nous vous écoutons Théodore.
Et d'abord, je salue tous les auditeurs de Radio Capi ainsi que l'invité sur place au studio. Le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, c'est un sujet très important dans la mesure où la protection de l'environnement constitue l'actualité parce que chaque pays du monde aujourd'hui milite pour la protection de l'environnement afin de contribuer au développement durable. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais néanmoins relever un certain nombre de propositions. D'abord, en obstant le fait que la pauvreté, comme l'a si bien indiqué certains intervenants, le premier intervenant, la pauvreté est aussi à la base aujourd'hui de la déforestation au niveau de nos communautés locales. Mais notre pays a un arsenal juridique important qui peut constituer la base d'une politique de communication pour arriver à sensibiliser les communautés. Récemment, j'ai dit défendre ou bien réaliser un travail de mémoire qui a porté sur la politique de communication du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Et dans ces mémoires, j'ai relevé l'aspect communicationnel dans la lutte pour la protection de l'environnement. C'est que le gouvernement peut se servir du code forestier ainsi que de la nouvelle loi portant protection de l'environnement pour arriver à sensibiliser en des termes simples les communautés locales. Parce que dans les codes forestiers, il n'y a pas seulement le droit des communautés locales d'exploiter les ressources naturelles ou les ressources forestières, mais dans ces codes forestiers, il y a aussi le devoir de ces communautés à protéger les forêts. Parce que la loi n'interdit pas aux communautés locales d'exploiter les ressources forestières. Néanmoins, ces dernières doivent mettre en tête qu'ils ont l'obligation de protéger ces forêts et de ne pas les exploiter de manière abusive.
Oui.
À côté de cela, il y a les sociétés forestières. Parce que dans notre pays, il y a plus de 165 sociétés forestières. Récemment, il y a eu, on était en train de résilier certains contrats, mais nous constatons que il y a des sociétés qui continuent à exploiter de manière abusive nos forêts. Mais il faut quand même qu'on mette en œuvre, qu'on puisse faire tout pour arriver à faire respecter la loi qui est déjà
Merci Théodore,
pourtant protection de l'environnement.
Oui, merci Théodore, renforcer la communication, informer. Nous vous remercions, je rappelle que vous nous appelez de Mbujimayi et tous les auditeurs qui veulent participer à cette émission, nos contacts, le 081-890-6315 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiotapi.net. Et après, bien sûr, nous allons donner la parole à notre invité. Évariste reste en ligne, nous allons vous accorder la parole après, bien sûr, que l'invité ait répondre à certaines préoccupations de cette première série d'auditeurs.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapi.net.
Madame Sadia Desmarquins, je rappelle que vous êtes conseillère principale du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sur les questions du changement climatique. Vous avez suivi cette première série d'auditeurs. Est-ce que vous pouvez essayer de répondre un peu systématiquement aux préoccupations? Nous allons commencer par cette préoccupation, par exemple, de Marcel, qui estime qu'il faudrait d'abord éliminer la pauvreté pour arriver à bien protéger nos forêts.
On commence par Marcel ou par Jean-Claude?
On commence par Marcel. Jean-Claude, c'est un
peu... Justement, la préoccupation de Marcel est légitime, puisque l'objet même du forum, c'était de voir le lien entre la politique que la RDC s'est engagée à mettre en place en faveur de la lutte contre les changements climatiques et son apport en termes de développement, donc de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo.
Il faut parler dans le micro.
Donc c'est vraiment en droite ligne des objectifs qu'on voulait atteindre en mettant en place, en lançant ce forum. Donc la lutte contre la pauvreté passera par le développement économique du pays, pas uniquement au niveau de l'exploitation forestière ou de la gestion forestière. Donc il a fallu mettre en place un dialogue entre les techniciens internationaux en charge des questions climatiques et des financements internationaux sur le climat et les possibilités de faire de la lutte contre le changement climatique un levier pour le développement économique du pays, tous secteurs confondus. Pas uniquement, il ne faut pas mettre un focus uniquement sur les aspects forestiers. C'est-à-dire qu'en aidant le pays à développer d'autres secteurs, on pourra réduire progressivement la pression des populations sur la forêt si elles trouvent leur compte dans d'autres secteurs, si elles arrivent à développer d'autres activités moins tributaires de la forêt.
Et l'initiative doit venir des communautés ou bien du gouvernement?
Alors, il y a aussi des deux parts. Les gouvernements doivent mettre en place et développer des stratégies, c'est leur devoir, des stratégies de développement, des orientations et des visions de domaines d'activité à développer. Mais les populations aussi doivent avoir un esprit d'entrepreneuriat. La population congolaise est une population de forêt. Et maintenant, il va falloir commencer un peu à changer de paradigme et voir comment on peut devenir de moins en moins tributaire, trop dépendant de cette forêt qui, de toute façon, si elle n'est pas gérée durablement, disparaîtra un jour.
Il y a même eu l'exemple d'un auditeur qui a constaté qu'effectivement il y a des forêts qui ont carrément disparu. Mais que pensez-vous de l'avis de Daniel qui se trouve ici à Kinshasa, qui estime qu'avec l'agriculture, ça peut permettre de protéger les forêts?
Oui, l'agriculture peut permettre de protéger les forêts si on arrive à mettre en place de l'agriculture durable, pas de l'agriculture justement telle qu'elle est pratiquée par le monde rural aujourd'hui, où on fait de l'agriculture itinérante sur brûlis. C'est-à-dire qu'on brûle une partie de forêt, on cultive et puis après on passe l'année d'après à une autre parcelle et ça détruit la forêt. C'est en stabilisant cette agriculture, en sédentarisant en quelque sorte les paysans, en leur apprenant des techniques culturales rotatives. Je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture.
Donc, ça va passer par la formation,
sensibilisation. On peut faire de l'agriculture différemment que comme elle est faite aujourd'hui. On ne peut plus continuer à gérer l'agriculture ou développer l'agriculture telle qu'elle se faisait avant.
Et maintenant, nous allons passer à l'avis de notre premier auditeur avec Jean-Claude. Il a fait allusion à la réglementation, il a fait allusion à beaucoup de choses à la fois. Et Théodore de Mbujima aussi est revenu là-dessus en disant que la RDC a un arsenal juridique existant et qui manque peut-être l'application de tout cet arsenal. Et voilà un peu les avis de Théodore et de Jean-Claude. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui. Donc Jean-Claude, sa préoccupation principale, c'était déjà, il a raison, le problème de la forêt, c'est l'absence d'énergie. Si on se retrouve face à ce problème de déforestation ou le risque de déforestation accru à l'avenir, à proche avenir, c'est si on continue à avoir ce problème de manque d'énergie en République démocratique du Congo, forcément, les populations ont besoin d'énergie et donc il y a pression sur la forêt, donc pour la production de makala. Donc c'est pour ça que pendant le forum, le ministre de l'Environnement a tenu à ce que son collègue du ministère de l'Énergie participe pleinement à cet exercice.
Pour faire des propositions d'énergie
C'était pour exposer aux partenaires ce qui se faisait, le potentiel en énergie alternative, en hydroélectricité, puisque l'énergie en République démocratique du Congo, c'est plus de l'hydroélectricité, et puis voir s'il y a d'autres types d'énergie qui sont applicables au contexte local. Donc forcément, le problème de la déforestation sera en grande partie réglé si on règle le problème de l'énergie. Il a parlé aussi du problème de l'exploitation illégale. Effectivement, ça c'est la plus grande préoccupation au ministère. Il y a un gros projet avec un cabinet qui s'appelle SGS de contrôle de l'exploitation en République démocratique du Congo à travers le territoire. Ça a commencé à l'ouest. Ça va maintenant être déplacé vers l'est, où il y a beaucoup de trafic de voies illégales à travers les frontières de l'est.
Là, ça revient à l'application.
L'application de la loi. La loi l'interdit, mais après, il faut déployer des moyens. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut coûter à l'État de contrôler tout son territoire par rapport à cette exploitation illégale. Donc, c'est en cours. Ça demande beaucoup de moyens financiers et de capacités techniques. Et puis, le pays, il faut le dire, est enclavé. Donc, les voies de communication sont difficiles, même inexistantes, en général dans des zones forestières. Donc, tout ce problème, justement, sera aussi, en principe, appuyé par les financements REP qui sont en cours de négociation. Ça permettra, ça aidera le pays à mieux contrôler son territoire corrigé
par où le gouvernement compte commencer, parce que c'est vrai que le pays est vaste, et vous avez dit que c'est assez difficile de pouvoir contrôler tous ces toutes les tendues, toutes les forêts, mais quand même, où est-ce que vous comptez commencer?
On a commencé au niveau des trois provinces forestières principales, mais nous nous sommes rendus compte que le bois, en fait, en contrôlant juste là où se trouve le plus gros patrimoine forestier, c'est bien, mais après, c'est l'écoulement du bois exploité
il faut maintenant contrôler et avoir un aperçu des flux et savoir par où ça sort pour pouvoir légaliser. Il n'est pas interdit d'exporter du bois, mais il faut que ça rapporte au pays. Ça ne rapporte pas au pays ce commerce et cette exploitation illégale. Donc c'est ça qu'il faut. Et une fois que ça rapporte au pays, le pays sera en mesure de mettre en place les moyens, former des gens, etc.
Il y a aussi cette préoccupation de l'auditeur qui voudrait savoir combien de structures travaillent dans l'environnement. C'est assez vaste, hein. Vous en avez par centaines, je crois.
Oui,
il y a plus le gouvernement.
Au niveau des structures contrôlant par rapport au contrôle forestier, il y a plusieurs directions au niveau du ministère. Il y a les douanes qui doivent participer beaucoup au niveau de l'exportation du bois. Au niveau même du ministère, il y a plusieurs directions. Il y a celles qui s'occupent de l'exploitation, il y a celles qui s'occupent de l'aménagement, donc de mettre en place un plan de gestion durable et qui va contrôler les exploitations. Les exploitants forestiers et s'assurer qu'ils gèrent de manière durable, c'est-à-dire qu'ils ne coupent pas le bois comme on le coupait il y a 20 ans. On rentre dans une forêt, on coupe et on ressort le bois qu'on veut. Ça ne doit plus se faire et non, on est dans cette vision-là. Et
dans cette dynamique-là de pouvoir changer les manières, de pouvoir protéger nos forêts. Nous allons écouter Evariste qui se trouve à Kinshasa, Christian Mbandaka. Et je rappelle à tous nos auditeurs qui veulent participer à cette émission, nos contacts, le 081-890-6315. Et pour en parler, nous avons invité pour vous Madame Sadia Desmarquez. Elle est conseillère principale du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, spécialement sur les questions liées au changement climatique.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Evariste.
Bonjour Madame Chantal, bonjour les auditeurs de Radio Okapi et bonjour à votre invité.
Nous vous écoutons, Evariste.
Oui, merci Madame. J'ai une série de questions. Je sais que nos prédécesseurs ont déjà donné plusieurs pistes de solutions, mais j'aimerais savoir si votre invité peut nous dire quelles sont les études qui sont menées à ces jours au ministère de l'Environnement pour arriver à la protection de nos forêts. La deuxième question, comment ces études-là, si elles sont déjà menées, comment sont-elles appliquées sur terrain? Troisièmement, quels sont les moyens que dispose à ce jour le ministère de l'Environnement pour arriver à la protection de nos forêts? Bon, la dernière question, quelles sont les sanctions prévues par le ministère de l'Environnement? Et comment le ministère peut faire appliquer ces sanctions-là à tous ceux qui ne pourront pas respecter les codes forestiers qui a été adopté par le Parlement. Bon, je veux faire une petite proposition, parce que les autres ont déjà dit l'essentiel. Je veux juste demander à madame, parce que dans notre pays, on laisse de côté les universitaires. Et pourtant, dans d'autres pays, quand il y a des problèmes qui se posent, on recourt aux universitaires et aux instituts supérieurs pour résoudre les problèmes. Je veux juste leur proposer, je sais qu'ils ne le feront pas. Mais c'est reposer sur les universités afin de chercher les voies alternatives, afin qu'on diminue l'utilisation de nos forêts. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme on n'a pas de l'énergie, on recourt au macala. Mais je sais que les universitaires sont en mesure de mettre sur point un produit qui peut nous aider à utiliser de moins en moins nos forêts pour nos ménages.
Merci Evariste d'avoir participé à cette émission. Donc, vous voulez qu'il y ait plus de réflexion, surtout au niveau des universités. Christian, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal et bonjour à l'invité. C'est Christian Moutou de Mbandaka.
Oui, de Mbandaka, nous vous écoutons.
Oui, madame, moi j'ai trois propositions. Premièrement, j'aimerais que le gouvernement prenne sa responsabilité en main, de façon qu'il y ait la moralisation auprès des populations qui habitent des entités forestières, c'est-à-dire éviter ces toute la population, leur moraliser au point de vue de la conservation de la nature, comme ça pose problème au niveau de la transformation climatique. J'aimerais aussi qu'on utilise une technique ou une stratégie de reboisement pour ne pas faire disparaître nos forêts, hein, qui ont des tas d'entrailles les reboisements pour la conservation de nos forêts. Donc la dernière proposition ici qui me fait mettre madame, est-ce que réellement le gouvernement a bien prévu un moyen ou bien une autre manière de vivre de la population qui vit dans des entités forestières? C'est-à-dire, beaucoup d'antiquités, il y a d'autres villages qui utilisent la difficulté comme leur moyen de vivre. Et lorsque vous allez interdire à cette population de ne pas de forestier, est-ce qu'il y a une autre manière pour leurs conditions de vie? Et c'est cela fait partie même de ma question auprès de l'invité. Que l'invité me dise s'il y a d'autres moyens prévus pour la condition de vie de la population qui habite devant des entités forestières.
Merci Christian. Oui, vous avez une dernière chose à dire. Je crois qu'on voudrait aussi accorder la parole à Steve et aux autres auditeurs qui se sont déjà inscrits. Vous avez autre chose à dire?
Oui, j'aimerais rien qu'ajouter qu'il y ait aussi des sanctions prévues pour les gens qui viennent exploiter d'une manière habituelle la forêt. En dommage, là, je vois des sociétés qui descendent au niveau local pour exploiter illégalement la forêt.
Merci beaucoup, Christian. Serge, vous êtes à Bounia. Nous vous écoutons, Serge.
Oui, bonjour à tous les auditeurs là, de Capi. Moi, je vais seulement soulever le point que vous n'avez pas souligné parce que, bien sûr, c'est bon de protéger la forêt, mais qu'est-ce que les Congos, qu'est-ce que le peuple congolais gagne dans tout cela? Parce que les auditeurs ont soulevé le cas de la pauvreté, le cas de massivité, beaucoup de choses, mais nous devons voir aussi qu'est-ce que la communauté internationale réserve à la RDC au peuple congolais dans ce cas-là. On ne doit pas seulement protéger la forêt pour les protéger, mais on doit voir aussi les intérêts que nous gagnons. Si vous devez comprendre que moi, je serais un peu extrémiste dans ce sens-là, parce que la forêt nous appartient, nous, peuples congolais, pas pour les occidentaux.
Si vous pensez, mais n'oubliez pas que les Congolais profitent de cette forêt.
Vous dites quoi, les Congolais?
Vous dites que les Congolais vont gagner en protégeant la forêt, mais la forêt, elle est aussi bénéfique pour le Congolais lui-même.
Bien sûr, la forêt bénéficie pas seulement pour les Congolais, pour tout le monde. Nous sommes le deuxième pays qui a la plus grande forêt au monde. C'est-à-dire que nous supportons presque les quoi. Tout le monde n'a pas seulement pour les Congolais. C'est pourquoi le monde doit s'occuper de nous. Le gouvernement doit sensibiliser les gens, les pays qui ont des industries, les pays qui ont plus développé des industries qui polluent l'atmosphère, les faciliter de donner des moyens à la RDC pour essayer de protéger la forêt, pas seulement protéger, pour protéger, et ils ont terminé la forêt, mais nous gardons que la forêt, c'est la forêt des peuples congolais. C'est ce que moi je vois ça à un moment, l'ambiguïté. Si le gouvernement doit être vraiment l'avocat des peuples congolais au niveau du monde, dans les conférences de Copenhague, dans d'autres conférences, le gouvernement doit faire le lobbying de sa forêt, pas seulement protéger et ne pas avoir l'intérêt. C'est ça ma préoccupation.
Merci, Steve. Donc, vous voulez savoir en échange qu'est-ce qu'il y a retour si on protège nos forêts? C'est ce que vous posez comme question et aussi vous souhaitez qu'il y ait des moyens qu'on puisse être remis à ces populations pour qu'elles puissent protéger ces forêts. De votre point de vue, Jean-Noël, vous êtes ici à Kinshasa, c'est Jean-Noël Marion, vous êtes chef de projet de CIRAD. C'est un projet en fait qui est dans le reboisement et la création de ces forêts en vue bien sûr de pouvoir les utiliser dans la fabrication des matelas, des braises. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir mettre en place ce projet?
Oui, bonjour et merci de me passer la parole. Donc effectivement, je suis chef d'un projet qui s'appelle le projet Makala et c'est un projet européen, sur financement européen et qui a commencé il y a plus de 2 ans maintenant. Alors, on est parti du constat, si vous voulez, que la fabrication de charbon et de braise et l'approvisionnement des villes de RDC ou plus généralement d'Afrique centrale en bois énergie est quand même la première cause de dégradation des forêts. bien avant l'exploitation pour les grumes. C'est cette exploitation pour faire le charbon, pour faire le bois de feu, qui cause la majeure partie de la dégradation, et ça se trouve dans les zones périurbaines, en particulier autour des grandes villes, puisqu'il faut savoir que, par exemple, à Kinshasa, le charbon vient de parfois de plus de 60 km par le fleuve. Donc, on a une dégradation très forte de l'environnement dans des zones qui sont sensibles et avec des risques de paupérisation, donc accentués, des populations rurales qui voient leur environnement modifié et donc qui ont des conditions de vie de plus en plus pénibles. Alors, la création, si vous voulez, de boisement de type agroforestier, donc c'est-à-dire l'association acacia manioc sur les savanes principalement, ou la restauration des forêts dégradées par des actions de mise en place de plans de gestion villageois, au niveau des villageois, sont des réponses qui permettent d'améliorer donc les conditions de vie des populations locales et de procurer une gestion durable de la ressource.
Vous avez initié ce projet, vous avez mis vos moyens avant bien sûr que d'autres bailleurs de fonds puissent vous appuyer.
Tout à fait. Le projet Bacala n'est pas un projet de développement, c'est un projet d'appui méthodologique, et on est en train de définir les meilleures techniques, les meilleurs moyens pour que les projets de développement qui vont arriver, il y a de très nombreux projets qui vont s'occuper de reboisement, de développement de plantations, de restauration des forêts dégradées, que tous ces projets de développement qui vont arriver, avec de très nombreux bailleurs, et avec on retrouve là l'aspect changement climatique, puisque tous ces boisements contribuent à stocker du carbone et donc à réduire la facture carbone du pays, tous ces projets-là vont bénéficier des méthodologies mises au point par le projet Bacala.
Et à votre avis, il faudrait d'abord initier un projet avant d'attendre, bien sûr, un appui, par exemple, des bailleurs de fonds.
Ah ben, c'est pas d'aujourd'hui que les bailleurs de fonds apportent leur contribution, et on a l'exemple de Mampou, par exemple l'exploitation agroforestière de Mampou sur les plateaux batéqués qui ont commencé avec une coopération internationale depuis plus de 25 ans maintenant. Donc si vous voulez, la communauté internationale est très sensibilisée à cette question de la dégradation des forêts, de l'approvisionnement, de la gestion de la ressource.
Merci beaucoup d'avoir témoigné, d'avoir partagé votre expérience au cours de cette émission. Nous allons écouter Mavé qui se trouve à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Palumba. Bonjour.
Mavé,
je me confère.
Oui, est-ce que c'est possible parce qu'on ne vous entend pas très bien? Mavé, c'est un peu de changer de position. Peut-être que la qualité de la communication va s'améliorer. Mavé, j'espère que cette fois-là, ça a un peu changé. Nous vous écoutons.
D'accord, merci madame Marie-Chantal. Moi, je crois que vous connaissez le temps.
Oui, c'est mieux.
D'accord. C'est par rapport à l'émission et au sujet abordé aujourd'hui. Je crois que nous avons déployé les conduits de l'autre pays, la RDC. En fait, je constate dans le milieu où nous restons, c'est les non-respects de la forêt. C'est-à-dire, nous les connaissons, nous ne savons pas l'importance de la forêt et pourquoi l'existence de la forêt. Ici, à Kananga, sur la ville de Kananga, pratiquement, nous avions dans les temps imaginé qu'il y avait des arbres par-ci par-là, qui le temps a délité dans les temps. Et nous remarquons présentement que tous ces arbres sont en train d'être coupés par les Kananga. Nous n'arrivons pas à comprendre.
Donc, à votre avis, Mavé, faudrait une prise de conscience de l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme.
Madame Marie-Chantal Lumba, je lance un cri d'alarme, je supplie les habitants, les compatriotes congolais, qui respectent vraiment les rôles que joue la forêt dans l'homme.
Oui, merci beaucoup. Merci Mavé d'avoir participé à cette émission. Nous prenons directement Monsieur Olivier Moussoté, il est directeur général de Norocel, qui est en fait une structure aussi qui est dans la protection de l'environnement et des forêts. Et ils ont dans leur projet eu à pouvoir reboiser aussi, à créer des forêts ici à Kinshasa et dans d'autres provinces. Monsieur Olivier Moussoté, est-ce que vous pouvez aussi partager votre expérience dans le cadre de la protection des forêts?
Oui, bonjour, bonjour Marie-Chantal et bonjour aux auditeurs de Capi. Donc, comme vous venez de le dire, nous, ma société Novacel plante des arbres sur le plateau des Batéquets. Nous sommes engagés dans un programme qui, d'ici les deux prochaines années, nous aura permis de planter au total près de 6000 hectares d'acacias, de pins, d'eucalyptus, de milicia et d'autres essences locales sur le plateau des Batéquets, juste un peu avant le village de Bankana. Alors, en fait, nous sommes sur la rive gauche de la rivière Lukini. Et il y a quelques minutes, un de vos interlocuteurs parlait du projet Mampu qui, lui, se déroule sur la rive droite de la Lukini. Donc, nous sommes des voisins du projet Mampu qui nous a servi d'ailleurs d'inspiration pour développer le programme de Bibi Bateke. Alors, notre programme présente une originalité par rapport à tous les autres. C'est qu'en fait, le gaz carbonique qui est stocké dans les arbres des forêts Bibi nous permet d'émettre ce qu'on appelle des crédits carbone. Et donc, notre activité participe au mécanisme de développement propre qui est prévu par le protocole de Kyoto. Et nous sommes à ce titre la toute première entreprise privée en Afrique centrale à avoir été enregistrée par la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques.
Et votre projet, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à d'autres personnes, par exemple, parce que nous avons eu plusieurs auditeurs qui se posent des questions, à quoi ça sert de protéger les forêts si on n'a rien en retour? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oh, mais je pense que la question ne se formule pas exactement comme ça. La nécessité de la protection, non seulement des forêts, mais de l'environnement en général, c'est que les ressources de notre planète ne sont pas limitées. Si nous consommons les ressources de la planète sur laquelle nous vivons, eh bien, un jour ou l'autre, il n'y aura plus rien à consommer. Et donc, il s'agit de maintenant créer du développement durable, c'est-à-dire que les ressources sur lesquelles nous travaillons sont régulièrement renouvelées. Et c'est le principe des activités agroforestières que nous développons sur le plateau des Batéquets, c'est de combiner des activités à caractère agricole, à cycle court, comme la plantation du manioc, et des activités forestières à cycle plus long, qui ont l'avantage de restaurer la fertilité du sol. Et donc, au fil du temps, c'est-à-dire après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, les sols sur lesquels nous alternons de l'agriculture et de la reforestation auront tendance à gagner en fertilité et donc en productivité aussi.
Merci, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Mouchoté, de votre témoignage. Donc, comme l'a dit même notre invité, c'est multisectoriel lorsqu'on protège nos forêts pour le développement rural. Et pour tous nos auditeurs, restez branchés sur Radio Capi. Nous poursuivons cette émission. Nous allons accorder la parole à notre invité, tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Madame de Martel, encore une fois, vous avez suivi cette deuxième série d'auditeurs avec ces témoignages que nous avons eus des structures qui sont dans la protection de nos forêts, du renouvellement même de ces forêts. Encore une fois, il y a des auditeurs qui sont revenus sur le retour si nous protégeons nos forêts, et qu'est-ce que nous aurons en retour, parce que nous sommes déjà dépendants de ces forêts.
Oui. J'ai entendu plusieurs auditeurs revenir sur la question de la focalisation de la communauté internationale sur la forêt congolaise et que le Congo détient la deuxième forêt du monde. J'aimerais quand même qu'on sache que le Congo représente la deuxième forêt tropicale du monde. C'est pas la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Il y a les forêts boréales qui sont grandes, enfin, en Russie, les Russes ont les plus grandes forêts. Mais les tropicales, c'est la deuxième forêt après le Brésil. Il y a une remarque qui revient souvent à dire que depuis l'Antiquité, le Congolais vit dans la forêt, à travers la forêt, et dépendre de la forêt, mais tous les peuples du monde, en tout cas, les pays forestiers sont passés par là. Les Occidentaux ne se sont pas réveillés directement avec des routes, des usines développées directement, ils sont tous passés par là. Il y a des sacrifices à faire, il y a des mentalités qui doivent changer. Je ne dis pas qu'il va falloir construire des routes partout, des usines partout, et couper toute la forêt. Justement, l'enjeu est là. Le Congo doit se développer en tenant compte des écueils de l'Occident. au niveau au 19e siècle, enfin pendant la révolution industrielle.
Donc un avantage parce qu'il y a déjà des peuples qui sont passés par là.
Voilà,
ils vont pas réinventer la roue.
Voilà, on ne va pas lancer le Congo dans une histoire qui va reproduire les erreurs du passé des Occidentaux. Et je donnerai l'exemple du Brésil. Le Brésil est un pays forestier, plus forestier que la RDC. Ça n'empêche pas de se développer. Ça n'empêche pas d'essayer de trouver d'autres moyens de se développer que de l'extraction forestière. Donc, il faut passer de ce concept d'extracteur, donc économie d'extraction, à une économie de production. C'est-à-dire qu'au Congo, cet enjeu de financement RED vont pouvoir aider les Congolais à développer un esprit d'entrepreneuriat dans d'autres secteurs de manière à être de moins en moins tributaires de la forêt. La forêt est avant tout un avantage pour les Congolais, parce que si la forêt n'existe plus, le Congolais n'existera plus. La forêt est importante avant tout pour les Congolais. La communauté internationale en a besoin aussi. Mais il ne faut pas penser que les Congolais pourront continuer à vivre de la forêt.
Il y a aussi cet avis de Théodore qui pense qu'il faudrait renforcer vraiment la communication, informer et la mettre en action là-dessus.
Effectivement, dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale RED, il y a beaucoup d'efforts. Il y en a certainement beaucoup d'autres à en fournir, parce que le pays est grand, la population est immense. Donc, forcément, il va falloir continuer à communiquer et expliquer. Et le niveau de compréhension n'est pas le même d'une province à une autre, d'une couche sociale à une autre. Donc, c'est beaucoup de travail de communication aussi.
Et aussi, nous avons eu les témoignages de deux structures qui sont lancées dans la protection de la forêt. En les écoutant, on sent qu'ils ne s'occupent pas seulement de la forêt, mais ils ont aussi d'autres actions au niveau des communautés. C'est par exemple Novacel qui non seulement s'est lancé dans la création de ces forêts, dans aussi comment il appelait ça, les fonds carbone, les fonds carbone, mais aussi fait de l'agriculture à côté. Donc ça signifie qu'on essaie de faire des activités qui vont dans le sens, pas seulement forêt, mais aussi autre chose pour accompagner ces activités. Et c'est comme aussi Jean-Noël, ils ont créé, ils sont en train de créer ces forêts, mais ils estiment que ces forêts peuvent être, on peut reboiser tout en utilisant une partie pour de l'énergie. Que pensez-vous de ce genre d'activités, de projets?
Oui, ce sont des initiatives qui peuvent accompagner le développement durable du pays. Elles ne seront pas uniques. J'espère qu'il y aura beaucoup d'entrepreneurs congolais qui auront une ingéniosité, des projets de ce genre et même dans d'autres secteurs de l'économie. Mais c'est une dynamique à trois dimensions. C'est-à-dire l'entrepreneur en lui-même, il est bénéficiaire. Bien sûr, les crédits carbone, il va bénéficier. La communauté internationale a gagné parce que quelque part au Congo, il y a la séquestration de carbone. Les populations de la zone où se met en place le projet profitent parce qu'il y a eu de la création d'emplois et donc de la production de richesses. Donc c'est vraiment, ça a un caractère tridimensionnel.
Et nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. En conclusion, vous avez suivi tous nos auditeurs, leurs avis et ce qu'ils pensent. Bien sûr, il y a eu d'autres questions qui sont restées pendantes parce qu'on ne pouvait pas répondre à toutes les questions au cours de cette émission que de 60 minutes. Mais en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Que peut faire le Congolais pour protéger ses forêts, tout en pensant bien sûr qu'il y a d'autres dispositions, qu'il y a d'autres moyens de pouvoir vivre sans être dépendant, bien sûr, de la forêt?
Ce que peut faire le Congolais, c'est avant tout de penser à ce que sera la forêt qui l'entoure aujourd'hui, demain. Est-ce qu'il peut un peu se projeter vers, je ne dirais même pas vers ses arrière-petits-enfants, mais ses enfants
dans 50 ans,
20 ans, est-ce que les arbres qu'il coupe, dont il dépend aujourd'hui, est-ce qu'ils seront là? Et que sera son enfant demain si s'il n'y a plus d'arbres, de quoi va-t-il vivre l'enfant? C'est dans ce sens que le Congolais doit se projeter. Il le fait avant tout pour ses enfants, pour sa progéniture. Je parle du Congolais, au niveau de la société, je ne parle pas de l'État. L'État aussi doit penser au Congo de demain, et donc un Congo développé de manière durable, et la forêt congolaise doit rester éternelle.
En tout cas, merci beaucoup, madame, d'avoir participé à cette émission. Merci aux auditeurs. Et nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous parlerons des mariages précoces, comment protéger la jeune fille de ce genre de mariage. Vous pouvez réagir dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet ca@radiocapi.net. À demain. Entre-temps, restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ce programme.